Il est 13h, auditrice, auditeur, plongé dans le bain de friture de la fin du monde. Pour cette troisième émission, nous avons choisi la thématique de l'apocalypse.
Extinction de masse, menaces militaires et nucléaires, inflation non contrôlée, lente agonie des services publics, pandémie.
On pourrait continuer longtemps à décliner la liste des tristitudes qui égaillent nos quotidiens en ce début d'année 2023.
Notre époque ne fleure pas bon l'optimiste à tout va, certes, mais ce n'est pas nouveau. Nos cultures ont toujours produit ces récits mettant en scène la décadence de nos civilisations, mythifiant un passé idéalisé de l'âge d'or et annonçant la fin du monde en apothéose.
Où vous croyez, monsieur Pine ?
Pen, mon nom est Pen.
Où je vous conseille de prendre conscience que nous allons vers une catastrophe aux proportions bibliques.
Qu'entendez-vous par biblique ?
Il fait référence à l'Ancien Testament, monsieur le maire. Vous savez, les trucs genre apocalypse,
pluie
de pierre et de feu tombant du ciel, mers et rivières en ébullition.
40 ans de ténèbres, éruptions volcaniques.
Les morts qui se lèvent de leur tombe.
Sacrifice humain, chien et chat couchant ensemble, hystérie collective.
Bon, ça va, j'ai compris.
Cet extrait du film Ghostbusters cite directement l'apocalypse chrétienne, alors que Gozer le Destructeur s'apprête à prendre la forme du bibendum chamallow pour détruire le monde en commençant par New York. Nombre d'œuvres de fiction traitent de la fin des temps. Elles retrouvent les préoccupations de l'ensemble des religions où la fin du monde, appelée eschatologie,
rien à voir avec la matière fécale,
est décrite avec foule de détails.
Mais la Bible nous donne d'autres indices. Elle nous donne d'autres moyens de nous repérer dans cette frise chronologique qui va nous amener jusqu'à la fin des temps. Et à lire attentivement certains passages, il semble bien que le calendrier s'accélère. Les 10 signes de la fin des temps, où en sommes-nous ?
Comme le montre cet extrait d'une vidéo de la chaîne du frère Paul Adrien, prêtre et influenceur, paru au mois de décembre 2022, les chantres de la fin du monde ont encore de beaux temps devant eux. L'avènement de l'information continue multiplie la sollicitation de nos pauvres cerveaux par des constats alarmants et des futurs ombrageux. Le sentiment de fin du monde est là, la peur nous gagne et la consommation d'anxiolytiques grimpe vers des sommets vertigineux. Alors, que faire ?
Eh ben, une émission sur l'apocalypse, pardi ! Au programme, une pastille de deux ronds sur l'apocalypse nucléaire. On rejoindra ensuite le vaisseau Kitano pour parler du film Apocalypse Now, puis nous terminerons sur une nouvelle audio de Dark Crystal.
Mais pour commencer, nous sommes partis avec B.A. vous demander comment vous la sentiez la fin du monde, dans un sinistre trottoir nazérien qui sent bon la noisette.
Si je te dis fin du monde, tu réponds quoi ?
Par quoi ? Par le nucléaire, par la connerie humaine. Juste ça, on peut pas faire face déjà. Donc oui, ça fait peur. Quand on a les enfants et que nous-mêmes, déjà, on ne sait pas et qu'on voit devant. J'en ai un, il a 11 ans. Quel avenir donner ? Je ne sais pas, je ne sais pas quoi répondre. Cette connerie humaine.
Est-ce que tu vois des lueurs d'espoir ?
Les petites lueurs d'espoir, je les vois chaque jour avec des copains. Moi, je suis content parce que quand on peut s'entraider entre nous, ça c'est une force.
Merci, jeune homme.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça vous inspire quoi ?
On est en plein dedans, je pense, ouais. C'est l'effondrement de notre société, de toute manière. Enfin, l'effondrement de notre société moderne, occidentale. Parce qu'il y en a d'autres qui s'en sortiront mieux que nous, je pense.
Ah oui ?
Ouais, je pense, ouais.
Lesquels ?
Je sais pas, par exemple les clochards, les SDF, les pauvres, les Africains, tous ces gens-là. Je pense que ceux qui ont beaucoup à perdre, c'est les gens qui ont beaucoup. Voilà.
Et quelle forme ça va prendre du coup ?
Quelle forme ça va prendre ? Je pense que au niveau de la nourriture, au niveau de la santé, on voit bien toutes nos institutions, tout s'effrite et tout part en. Il y aura de la violence, ça va être affreux, hein. Je pense que ça va être affreux quand ça va. C'est en train de commencer, ça met du temps parce qu'on est sur du temps long. Mais ça va pas être beau à voir, je pense. Non, mais je pense que le plus gros pavé qu'on va avoir, ça va être l'intelligence artificielle et le transhumanisme quand même. Moi, c'est ce qui m'effraie le plus. Enfin, je pense qu'il va nous faire du mal, le truc. Je te demande dans cette fin des temps ou fin de l'humanité d'ailleurs.
Vous laissez combien de temps à l'humanité ?
Je pense que là, d'ici 2100, il n'y aura plus personne. À peu près.
Plus beaucoup.
Moins de 2100, je pense. Moins de 2100. Ça va se faire sur un temps long. Là, on commence maintenant. On le voit bien avec les problèmes Covid, tous les problèmes de santé. Il va y avoir les guerres. Voilà, voilà l'humain où on va aller.
Merci.
Et du coup, bien malin, qui prédira le futur.
Tout à fait.
Mais est-ce que toi, c'est quoi ton sentiment par rapport à l'avenir? Et comment est-ce que tu penses que l'avenir va être meilleur que le présent?
Alors, moi, j'ai pas d'enfant, personnellement, donc j'ai pas assumé une descendance. Donc, j'aurais envie de dire aux gens qui se reproduisent d'assumer le lien entre les générations aussi, parce que je pense qu'il y a quelque chose comme ça qui se joue. D'un certain côté, je suis plutôt pessimiste, mais en même temps, c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a ce truc on pense aussi le futur un peu menaçant, c'est-à-dire que la question climatique, question par exemple de l'écologie, du climat, ça c'est des trucs qui vont nous arriver très bientôt dans la gueule.
T'es à 2100, t'es à la surface de la planète Terre, là, tu regardes autour de toi, qu'est-ce que tu vois?
Alors, on imagine qu'il y a eu une troisième guerre mondiale, avec beaucoup de morts. Mais dans tous ces morts, il y aura forcément des survivants. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ou alors, ça prendra quelques centaines d'années, milliers d'années, tant que l'espèce se réadapte à son environnement. Je sais pas, peut-être que là, on aura tiré des conclusions et dans une possibilité d'extinction massive, j'en sais rien. Alors, on aura peut-être un peu plus d'eau dans certains endroits. Il y aura des gens qui vont, il faudra bien les mettre quelque part. Les gens qui ne pourront plus habiter là où ils habitent, par exemple, ça veut dire qu'un certain nombre de pays devront parlementer pour accueillir ce qu'on appelle les réfugiés climatiques, par exemple. Et là, ce ne sera pas 10, 15, ce sera à l'ordre de milliers, voire de millions. Hein. Mais je fais confiance aux générations futures avec leur progéniture pour justement faire le lien des générations.
Ça peut être quoi pour toi la fin du monde?
Ça peut être qu'on n'a plus de nourriture, on ne peut plus se nourrir avec l'argent, on ne peut plus rien faire. Je crois que ça va vite venir, ouais. Si ça va monter chaque mois ça monte. Après on ne pourra plus se loger, plus... Voilà.
Est-ce que tu es confiant en l'avenir? Est-ce que tu penses que l'avenir il peut devenir meilleur?
Si on lâche rien, oui, mais sinon si après les gens ils viennent pas avec nous, je pense que ça va être mort. On va bien l'avoir dans le. Voilà.
Ouais. T'imagines comment la vie en 2100?
Pour l'instant, je sais pas trop, mais je sais pas. Après, je pense qu'on n'aura plus rien, on n'aura plus de. Franchement, ce sera comme quel pays, mais c'est un pays où on est dans des tentes et tout ça, qu'on vit dehors dans les tentes et qu'on se réchauffe avec des. C'est pas comment on appelle les bouteilles de gaz, tout ça, qu'on se réchauffe. Voilà. Parce que on a tout le temps un gouvernement pareil, ça va finir comme ça. C'est ça que j'ai peur pour la suite. Et c'est pour ça que je lâche rien depuis le 17 novembre. Depuis le 17 novembre 2018. Et même un peu avant, j'ai commencé. Ça a pété.
La fin du monde.
La fin du monde.
La fin d'un monde. Qu'est-ce que ça vous. Si je vous dis fin du monde, vous me répondez quoi? Enfin, à quoi ça vous fait penser?
Aux usines, la pollution. Trop de consommation.
Et en 2100, vous nous imaginez comment?
Les gens vont, si ça continue comme ça, vont pas pouvoir se nourrir, se loger. Ça va être. Tout le monde va être SDF et le travail aussi, ça va mal. Ils vont mettre des robots, ça va être robotisé. Donc, ils vont employer moins de personnes.
Est-ce que vous pensez qu'une amélioration est possible et qu'un avenir meilleur pourrait arriver?
Bah, ça serait possible si tout le monde s'y mettrait, si le gouvernement change, si tout le monde se pose des questions sur ce qui se passe, bien approfondir les choses, pas penser qu'aux riches et aux pognons. Les gens moyens ou les gens pauvres, je sens qu'ils sont expulsés de ce monde, tout juste s'ils arrivent à payer leurs factures, quoi. Même s'ils travaillent, malheureusement, ça arrive là. On se rend compte que quand on consomme moins, là, qu'on a peut-être des fois abusé sur la consommation et jeté de la nourriture. Mais c'est sûr, question consommation, faut quand même faire attention, quoi.
Alors, vous êtes motivée et militante, on vous trouve sur un rond-point.
Oui.
Mais pouvez-vous nous dire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ce qui va se passer dans l'avenir, comment vous le sentez?
Oh, moi, ça fait un bon moment que je pense qu'il va falloir sérieusement plonger dans une récession. Enfin, qu'il va falloir le faire volontairement, hein, non pas catastrophique et tout, en dépensant de moins, en consommant de moins en moins. Moi, depuis toute gosse où j'ai vu un film qui s'appelait avec Charlton Heston, qui s'appelait Soleil Vert. Je pense que si on continue à penser profit, industrie, agriculture industrielle, élevage intensif, déforestation, tout ça, tranquillement vers ce genre de film où Soleil Vert, ils finissent par manger l'humain. Et donc je crois qu'il est quand même grand temps qu'on freine, quoi, qu'on arrête et puis qu'on se réunisse et puis qu'on se dise bon, qu'est-ce qu'on fait là, on arrête les conneries, on arrête la bourse, le boursicotage. On est mal barré, hein. Moi, je pense qu'on est très mal barré.
Si vous vous projetez à 2100, vous avez une fenêtre qui s'ouvre sur le monde de 2100, comment vous voyez?
Moi, je le vois un peu comme dans le film dont je parlais au début, le fils de dernier homme, où tout le monde s'arrache, tout le monde se fait la guerre pour essayer de récupérer la dernière femme pas stérile, parce que je crois qu'il reste un homme, enfin, la dernière femme qui est enceinte d'ailleurs dans le film. Je vois surtout parce que l'être humain est incapable d'une quelconque sagesse. Maintenant, il est allé trop loin. Il peut pas régresser, je crois pas. Donc, ça sera la guerre.
Merci de ce partage.
Merci.
Je me dis que effectivement, le monde part en cacahuète, hein, pour être poli. Moi, je pense qu'il faut se bouger parce que forcément, si on fait rien, automatiquement, ça changera pas, quoi. Et le problème, c'est pour les générations à venir. Moi, ça me fait peur de faire un enfant actuellement, en fait. Mais voilà. Donc après, je me dis, dans le futur, si on fait rien, on vivra tous. Ceux qui sont dans la misère, ils vont finir à la rue. Enfin, on sera tous avec des chicots complètement pourris. Et puis, une santé qui sera vraiment à râler pas crête, quoi. Mais donc, quand on parle d'écologie, par exemple pour les voitures électriques aussi, qu'au final, ça pollue bien plus que les diesels et les essences aussi. Parce que voilà, moi j'apprends la mécanique, tous ces trucs-là, et effectivement, quand on regarde l'électrique, c'est aberrant en fait.
Et 2100, ça pourrait ressembler à quoi?
Alors là, comme ça, je me dis que ça fait tellement peur, je veux même pas être là pour voir.
Ce serait quoi s'il y avait des solutions pour sortir de ce marasme? Ce serait quoi?
Que tout le monde sorte en même temps dans la rue et qu'on arrête tout en fait, pour faire valoir nos droits en fait. Ouais, voilà. Parce que effectivement, il y en a qui font grève. Mais le problème, c'est que c'est pas tout le monde. Faudrait qu'on fasse bloc. À une certaine époque, c'est ce qu'ils faisaient. Hein. Tout le monde sortait et faisait bloc justement pour que ça change, et ça a changé. Donc après, les droits qu'on a réussi à obtenir, il faut qu'on continue de les avoir en fait.
Nous sommes le mardi 24 janvier 2023 à Washington, aux États-Unis d'Amérique. L'horloge indique 23h58 et 30 secondes. Et pourtant, le soleil brille au-dessus des têtes américaines. L'horloge que nous regardons est d'un genre particulier. C'est l'horloge de l'apocalypse, de Doomsday Clock. Et nous sommes 1 minute 30 avant minuit, 90 secondes avant l'apocalypse. La mise en scène de la cérémonie est sobre et souligne la gravité de l'annonce que vient de faire le Bulletin of Atomic Scientists. Depuis la création de l'horloge en 1947, jamais l'humanité ne s'était retrouvée si proche de sa fin, y compris lors de périodes de tensions accrues entre les superpuissances nucléaires. Nous vivons dans une époque de danger sans précédent. C'est en ces termes que Rachel Bronson, présidente du bulletin of the Atomic Scientist, commente l'annonce de notre fin prochaine. Effectivement, l'époque ne se prête pas aux réjouissances. Casse du système social, montée de l'extrême droite dans le monde entier, effondrement de la biodiversité, etc. Ici, nous parlons d'anéantissement total. Dans un document simplement mais efficacement intitulé « Nowhere to Hide », publié en octobre 2022, le bulletin of Atomic Scientist nous projette dans les premières heures d'une guerre nucléaire et de ses conséquences évidemment apocalyptiques.
So there's been a nuclear attack. Don't ask me how or why, just know that the big one has hit, okay? So what do we do? There are three important steps that I want you to remember. Step one, get inside fast. You, your friends, your family, get inside. And no, staying in the car is not an option. You need to get into a building and move away from the windows.
Le document que nous venons d'entendre est une partie de l'annonce des services de gestion de crise de la ville de New York en cas d'attaque nucléaire sur la ville. Les trois étapes à suivre en cas de cataclysme nucléaire sont les suivantes. Abritez-vous, restez à l'abri et restez informés. Sont de sages conseils, probablement emplis de bonnes intentions. Est-ce que la ville de New York pourrait faire mentir les membres du bulletin of Atomic Scientist et leur titre racoleur ? C'est bien tenté, mais quelques détails viennent leur donner raison. Le premier d'entre eux, l'explosion. Une charge de 800 kilotonnes. Elle dégage une température de 100 millions de degrés Celsius en son centre. 4 à 5 fois la température du centre du Soleil. À cette température, toute forme de matière est vaporisée. Votre abri ? Merci New York. Vient ensuite l'onde de choc. Elle se déplace plus vite que le son, et 10 secondes après l'explosion, elle a rasé la totalité des bâtiments sur environ 250 km². C'était vraiment bien tenté, New York. Et durant tout ce temps, qui n'a été qu'un film, les radiations ont commencé leur œuvre. Quelques instants après l'explosion, la peau des corps qui n'étaient pas dans le rayon d'action de cette dernière commence à brûler. Elle brûle d'un feu qu'on ne peut éteindre. Elle devient rouge, et des cloques apparaissent à sa surface. Bientôt, les vivants commencent à cracher du sang. Les tissus traversés par les rayonnements commencent à dégénérer. Les vaisseaux sanguins se sont transformés en passoires, promettant à toutes et tous une mort lente et douloureuse. Enfin, les retombées radioactives. Ici, pas de créatures mutantes que l'on pourrait oxyre à tour de bras sans trop de risques. Pas de fantasmes survivalistes ou de cabanes dans la forêt, non. La réalité est tout autre. L'eau est contaminée, les fruits sont contaminés, les animaux sont contaminés. Les terres rendues stériles ne sont plus cultivables. En cas de guerre nucléaire totale, des milliers d'explosions comme celle-ci pourraient avoir lieu à quelques minutes d'intervalle. Outre les millions de morts causées par cette escalade, les conséquences sur le climat, les océans, l'atmosphère et les terres engendreront des changements extrêmes qui causeront une famine globale, inévitable. La conclusion du bulletin of Atomic Scientist est sans ambiguïté. Ce seront 5 641 millions d'humains qui mourront de faim dans les deux années qui suivront l'apocalypse nucléaire, la quasi-totalité de l'humanité. Le soleil brillera toujours dans le ciel terrestre, mais plus personne ne pourra profiter de sa chaleur. Ce récit cauchemardesque est celui du nucléaire militaire et de la folie guerrière des grandes puissances économiques de ce monde. Mais la menace est également civile. Elle est bien plus proche et plus visible que des ogives dans des sous-marins. En France, 18 centrales nucléaires, qui totalisent 56 réacteurs toujours actifs, sont réparties sur tout le territoire métropolitain. Elles sont proches, elles sont visibles, elles sont dites sûres. Les centrales de Tchernobyl et Fukushima l'étaient aussi. Proches, visibles, sûres. En plus des menaces directes de l'énergie atomique, nous n'avons pas abordé le sujet pour le moins problématique, au pire calamiteux, des déchets de l'industrie nucléaire, qui sont autant de dangers pour les écosystèmes et les organismes vivants. Pour aller plus loin, je vous invite à explorer le site internet du bulletin of Atomic Scientist et aussi à visionner l'excellente série Tchernobyl produite par HBO. Pour terminer cette chronique, on se quitte maintenant sur une chanson de Behemoth, Blow Your Trumpet, Gabriel.
Bienvenue à bord du vaisseau Kitano. Pour cette chronique, nous allons traverser les contrées du 7e art en explorant les rapports que le film Apocalypse Now entretient avec la fin du monde et sa symbolique. Palme d'or au Festival de Cannes en 1979, tournage chaotique et gargantuesque, cette réalisation de Francis Ford Coppola a pris, au cours de son histoire et ses multiples versions, un aura d'œuvre mythique. Le récit se déroule pendant la guerre du Vietnam. Le capitaine Villard est chargé par l'état-major d'une mission secrète, assassiner le colonel Kurtz, dont les méthodes sont jugées malsaines et qui fait régner la terreur et la mort dans la jungle. Le film ouvre sur des fondus enchaînés entre le vol des hélicoptères dans les fumées de napalm et la chambre du capitaine Villard, au bord de la folie, ne sachant plus où il est et sombrant dans l'alcool. La musique des Doors annonce déjà la fin à venir.
Saigon. Merde. Je suis encore à Saigon. Chaque fois, je crois que je vais me réveiller là-bas, dans la jungle.
C'est le lexique religieux qui lui apporte sa planche de salut. La Providence lui apporte une mission divine.
On finit toujours par avoir ce qu'on veut. Moi, je voulais une mission. Et pour pénitence, on m'en donna une. On me l'apporta même sur un plateau.
Capitaine Villard, vous êtes là ?
C'est autour d'un roast beef que l'état-major de l'US Army lui donne ordre de tuer le colonel Kurtz. Un premier enregistrement de la voix du colonel introduit le personnage.
J'ai regardé un escargot qui rampait sur le fil d'un rasoir à main. C'est mon rêve. C'est mon cauchemar. Il faut que je les tue. Il faut que je les incinère. Porc par porc. Vache par vache. Village par village. Troupe par troupe. Et ils me traitent de tueur. Alors quel nom donne-t-on aux tueurs qui accusent les tueurs ?
À partir de cette première apparition sonore, Kurtz va littéralement hanter la psyché du capitaine Villard. Villard est déjà un homme brisé qui vient de rompre avec sa vie passée. À son dernier retour de permission aux États-Unis, il a compris qu'il n'avait plus sa place au pays, comme il dit. Pour lui, il ne reste que le Vietnam et la guerre. Kurtz s'impose à lui comme un reflet de ce qu'il pourrait devenir. Ce dernier est présenté comme une figure satanique. Il était un militaire exemplaire, promis au plus haut poste de commandement, et qui, sombrant dans l'abîme et l'horreur, est déchu par le commandement. Comme Lucifer, ange déchu, banni par Dieu, Kurtz s'est créé un royaume dans la jungle où il règne par l'horreur sur une horde démoniaque. Le capitaine Villard accepte sa mission de rédemption et part, tel Ulysse, à bord d'un navire accompagné de quelques hommes pour remonter le fleuve Nung, loin dans la jungle où se cachent le colonel Kurtz et son armée. Sur son chemin, la guerre n'est vue qu'au travers du prisme des États-Unis. Les personnages vietnamiens ne sont que des figurants, des ombres déchiquetées par les mitrailleuses et brûlées par le napalm. C'est la civilisation occidentale qui est mise en scène et elle est montrée comme décadente. Les États-Unis sont la Babylone corrompue et la Sodome dépravée. Les différents militaires que Willard croise dans son périple sont tous touchés par la régression mentale. Leurs préoccupations sont celles d'enfants ou d'adolescents. Le lieutenant Bill Kilgore, qui commande la cavalerie aéroportée d'hélicoptères, est littéralement omnibilé par le surf. Ainsi, il abandonne un blessé à qui il donnait à boire quand il apprend que l'équipage de Willard compte Lance Johnson, un surfeur de renom.
Colonel, je crois que dans les soldats là-bas, il y a Lance Johnson.
Ouh, ici, t'es sûr ?
Là, devant !
Décompte des morts, je répète, décompte des morts Vietcong. 20, je répète, 20, 2, 0, 20 Vietcong.
Quel est ton nom, matelot ?
Mitrailleur deuxième classe, Lance Johnson, mon colonel.
Mitrailleur deuxième classe.
Lance Johnson, le surfeur ?
Oui, mon colonel.
C'est un grand honneur pour moi de te connaître. J'admire ton toucher de vague depuis des années. Et je t'invite à les inverser aussi. Je te trouve imbattable pour les inverser.
Merci, mon colonel.
Ah, pas tant de colonel, Lance. Moi, c'est Bill Kilgore.
C'est en apprenant l'existence d'une vague particulièrement intéressante qu'il décide d'apporter son aide à Villard et lance une opération de destruction totale sur un village du delta du fleuve. Le bombardement au napalm lui donne alors une des répliques cultes du film, véritable ode à la guerre, qui montre encore l'inversement des valeurs qui caractérise l'état d'esprit des protagonistes.
Est-ce que tu sens ? Quoi ? Le napalm, fils ! Y'a rien qui sente bon comme ce truc-là ! J'aime l'odeur du napalm au petit matin. Une fois, on avait lâché une chier de bombe, arrosé pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macap de Viette, il n'y en avait plus un seul. Ça emboumait, toute cette essence, ça sentait bon. La colline sentait. Ça fleurait. La victoire.
Le caméo de Coppola, en réalisateur de reportages pour la télévision, qui transforme la guerre en spectacle, continue de planter le décor. Ici, rien n'est grave. Les hommes cherchent à échapper à l'horreur en vidant le réel de son sens. Comme Kilgore, qui sort un paquet de cartes pour les distribuer sur des cadavres, la mort devient un jeu. Les soldats sont drogués, fumant du cannabis à longueur de journée, gobant des acides leur donnant des visions hallucinées qui leur font évoquer Disneyland, ou, dans une scène où Villard cherche le commandant du poste protégeant le dernier pont sur le fleuve, les lumières des fusées et la musique invoquent une foire démoniaque, malade et discordante. Le sexe aussi est invoqué, à travers la scène du spectacle de Playmate, où une foule hystérique de jeunes mâles libidineux se rue vers les jeunes femmes obligées de prendre la fuite en hélicoptère pour échapper au viol collectif. Dans ce monde, tout est violence et dépravation. La remontée du fleuve est vue comme une descente aux enfers. La référence aux fleuves infernaux comme le Styx se retrouve dans la multitude de scènes montrant des corps morts et décharnés recouvrant les berges, ou quand des soldats, ombres dans la nuit, appellent l'embarcation de Willard comme des âmes perdues. L'apocalypse se trouve aussi dans la musique du film. Dans The End des Doors, qui ouvre et ferme le film, Jim Morrison prophétise la fin de tout ce qui se tient. Les enfants sont devenus fous, dit-il, et il faut chevaucher le serpent vers le lac ancien. Le serpent, un des visages de Satan, est placé ici dans une perspective plus païenne, chère aux visions chamaniques de Jim Morrison. Le Ragnarok, le crépuscule des dieux, fin du monde de la religion nordique, est directement présent dans la chevauchée des Valkyries de Wagner. Elle accompagne le déluge de feu et de destruction délivré par les hélicoptères de Kilgore. C'est la mort qui vient du ciel.
Branchez, guerre psychologique, à plein tuyau. Ici Roméo Foxtrot, allez, on danse. Jimmy.
C'est sur une musique planante et onirique que Villard et ce qui reste de son équipage arrivent enfin au terme de leur voyage. Après avoir traversé les brumes, ils sont accueillis par un peuple fantôme au corps recouvert de peinture blanche avant d'arriver au temple de Dité, sanctuaire de Kurtz, dieu de l'horreur. Si les amoncellements des corps suppliciés, pendus ou décapités, peuvent évoquer des visions de l'enfer de Dante, l'architecture et les adeptes rappellent plus l'exotisme du temple maudit d'Indiana Jones et sa pratique des sacrifices humains. Dans ce lieu de ténèbres, Villard et sa bande sont sous la protection du Tout-Puissant, nom de code donné au commandement de l'armée US. Comme le personnage de chef le déclare, on est dans l'affrontement final du bien contre le mal.
Vous savez, ce type-là, là-bas, le colonel, il est complètement barjou. C'est pire qu'un dingue, ce mec, c'est le mal. Non, mais vous vous rendez compte de ce qu'il fabrique ici? Merde, c'est de l'idolâtrie païenne, tout ça. Regardez autour de vous.
Pour Villard, c'est beaucoup moins clair. Dans ses nombreux monologues qui ponctuent le film, il s'est rapproché du point de vue de Kurtz. Quand enfin Villard le rencontre, Kurtz est présenté comme une créature surnaturelle habitant la pénombre. Doué de pouvoirs de préscience, il connaît déjà le nom de Villard, sa mission, ses motivations et comment cela finira. En plongeant dans l'horreur et la mort, Kurt semble avoir effectivement, comme le déclare un de ses adeptes, dépassé sa condition de mortel. Il raconte sa révélation mystique devant une montagne de bras d'enfants.
Nous sommes retournés sur nos pas. Ils étaient venus après nous et avaient coupé tous les bras vaccinés sans exception. Ils étaient par terre, empilés, une pile de petits bras. Comme si j'avais été blessé. Comme si j'avais été blessé par un diamant. Touché en plein front par une balle en diamant. Et j'ai pensé, mon Dieu, quel génie dans tout ça. Quel génie.
Peu après, Kurtz dit qu'il a décidé que Villard allait le tuer. En acceptant sa mort et en la livrant à Villard, Kurtz accepte le cycle de la fin et du renouveau. Thème de l'apocalypse païenne que l'on retrouve chez les Mayas.
J'ai vu des horreurs. Des horreurs que vous avez vues aussi. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'assassin, mais vous avez le droit de me tuer. Vous avez le droit de le faire. Mais vous n'avez pas le droit de me juger.
Sa mise à mort par Villard est présentée en parallèle du sacrifice d'un taureau noir. Les coups de machette pleuvent et les bêtes sacrifiées finissent à terre. Quand Villard apparaît devant les adeptes, il tient en main un manuscrit rédigé par Kurtz sur une machine à écrire, son testament. Légataire de Kurtz, il pourrait devenir le nouveau dieu de la jungle, mais il jette sa machette au sol et quitte le temple devant une foule prosternée. Villard a vaincu le mal et sa tromperie. Il a résisté à la tentation et est resté fidèle au commandement de l'armée. Son dernier geste, avant l'écran de fin, où il coupe le contact avec le Tout-Puissant, ouvre quand même la voie des possibles à la suite de son destin.
Patrouilleur Loubard, ici Tout-Puissant, à vous. Patrouilleur Loubard, ici Tout-Puissant, répondez, à vous.
Merci aux élèves du lycée expérimental participant à l'activité pratique musicale pour leur participation à la bande-son, qui s'ajoute aux extraits du film et de sa bande sonore. Pour finir, et avant de rejoindre Dark Crystal pour sa nouvelle post-apocalyptique, je vous laisse avec un morceau des Portes, appelé La Fin.
This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. Can you picture what will be? So limitless and free. Of some stranger's hand in a desperate land. Thank you. lost in a romance, wilderness of pain, and all the children are insane. All the children are insane, waiting for the summer rain.
Le juste retour des choses. Pour commencer.
Pour commencer, le ciel resta bas et gris, empêchant le jour de se pointer. C'était un jour brumeux, de la période bleue, un jour comme elle les détestait. Le temps du matin l'avait prédit, elle l'avait vu en allant faire pipi. L'aube se levait quand elle s'était mise au lit, complètement rincée d'avoir creusé toute la nuit. Quand elle rouvrit les yeux, du fond de son couchage, les heures qui suivaient n'annonçaient pas de bons présages. La première chose qu'elle ressentit, encore à moitié endormie, fut cette lourdeur qui habitait son estomac depuis la veille et qu'on appelle aussi l'angoisse. La lune montait, l'ombre s'étirait, la nuit tombait, seuls ses rideaux or illuminaient. Ses rideaux, les voilages et tous les autres linges de maison, c'était la mère défunte qui les avait confectionnés. Sa mère, c'était la reine de l'aiguille. Pas un habitant de la zone qui n'ait eu recours à ses habiles doigts de fée. Elle cousait tout pour tout le monde. Jusqu'à ce soir de tonnerre où elle partit sans retour, laissant la gosse orpheline parce que déjà sans père. La petite Maddy, âgée de 12 cycles, n'emmena que les tissages maternels lorsque sa chèdre la recueillit dans sa bicoque au fond de la zone. Chiron, à 80 cycles, était encore robuste comme un chêne. L'ancienne la fit grandir en la berçant d'histoires et de concepts hérités des aînés disparus, récit d'un monde englouti qui avait traversé le temps et l'autre monde jusqu'ici. Au crépuscule, le même rituel. Maddy étale scrupuleusement sur la table de l'atelier tous ses outils et autres instruments de recherche, chacun subissant le même protocole. D'abord soigneusement nettoyé, puis minutieusement vérifié, et enfin délicatement rangé, le tout au fond du sac. À la nuit tombée, elle part vadrouiller loin et seule, son attirail sur le dos, s'enfonçant hors de la zone protégée, dans la carrière délimitée, à la recherche des traces d'un passé enfoui. Il n'y a pas qu'elle qui cherche, qui fouille. Des années, qu'elle et il se succèdent au fond de l'immense fosse, sans grande trouvaille ni grand intérêt du reste des leurs. Il représente un groupe parmi d'autres dans la communauté. On les appelle les Ténébreux. Ils sont de tout âge, tout genre, tout style. Ils échangent sur leurs découvertes, organisent des visites peu fréquentées de leur musée collectif de l'Anté JRC. Il n'y a qu'une règle, définie et partagée par la communauté. Ce qui émerge des profondeurs de la terre ayant attrait au passé reste où il est, c'est-à-dire hors de la seule zone habitée. La rupture est totale et consommée, on n'y reviendra pas. L'ancien système restera pulvérisé et à distance. Le nouveau monde existait enfin, et c'était pas rien. La vie sur cette nouvelle terre n'était garantie que par le maintien de la paix et de la solidarité entre toutes les espèces, végétales, animales et humaines. toujours à son rythme. Maddie avait poussé, maigre comme un clou. Elle atteignait maintenant presque 2 mètres. Âgée de 20 cycles, le feu du savoir et du reste lui brûlait l'intérieur. Née 150 cycles après le terrible juste retour des choses, dit JRC, elle cherchait dans le noir ce que personne ne voulait plus voir. Elle savait ce qu'elle voulait, ce qu'elle ne voulait pas et quoi faire de ses 10 doigts. Ses cheveux coiffés en petits chignons recouvraient une tête bien pleine. La langue dans sa poche, les sourcils froncés, elle paraissait en guerre dans ce monde de paix. Elle ne sortait jamais sans son sac rempli d'on ne sait quoi, ni sans ses larges protections solaires couvrant la moitié d'un visage anguleux. Affublée d'une cuirasse en lin parfaitement ajustée, elle passait ses nuits à forer et à retourner la chair de leurs mondes anciens. De ses périples nocturnes, la jeune n'était pas rentrée directement se coucher. Cette nuit, plus qu'une autre, avait été éprouvante. La vieille Chiron l'avait attendue comme à son habitude, dans un demi-sommeil, le cœur et les oreilles en éveil. Elle était restée un bon moment à trafiquer dans l'atelier. Quelque chose clochait, et l'ancienne le sentait. Dans le présent de ce monde meilleur, Maddie s'emmerdait, mais plus pour longtemps. Maddie avait un secret.
Le pourquoi du comment.
Le grand cataclysme avait eu lieu juste après les années 3000. Exactement le 16 décembre 3037. En plein été caniculaire et assassin, du côté de l'hémisphère sud, abandonné seul à sa soif. Pendant qu'au nord, forteresse barricadée de jour comme de nuit, le froid glacial et meurtrier menait sa course en solitaire. Le bouleversement radical du monde s'était enfin produit. Celui-là tant espéré, qui avait tant coûté aux ancêtres de la communauté miraculée, à celles et à ceux coincés aux marges, exclus des multiples sociétés se succédant sur la planète Terre. Celui-là qui balaya l'ordre international d'un revers méprisant, ses régimes, leurs pratiques discriminatoires et criminelles, sans oublier tous les agents, actif ou passif, sans distinction et sans appel. Comme une colère céleste, l'opération planétaire frappa certains au cœur de la nuit et d'autres en plein jour. Peu d'êtres et de choses y survécurent, à peine une centaine d'espèces vivantes. De l'espèce animale, peu subsistèrent. Tous les vertébrés, tétrapodes, ailés disparurent. En clair, plus un piaf sur Terre. Ceux que l'être humain avait domestiqués ne purent se sauver. Quelques espèces animales, sauvages et terrestres, pouvant hiberner s'en sortir. Certaines autres, marines, carnivores et petites, résistèrent à la commotion mondiale. Une partie des créatures végétales terrestres et quelques plantes aquatiques furent préservées. Toute la robotique humanoïde et autres appareils associés furent détruits. Seuls quelques instruments mécaniques purent être épargnés. Et le bas monde changea quand la Terre implosa. Désormais, la planète ressemblait à un Y ou à une ventouse. L'hémisphère nord, amputé aux 3/4, ne laissait apparaître qu'un large pied sous lequel reposait une sorte de V, ou ce qui restait de l'hémisphère sud. Le sol devenu tiède abritait la faune, la flore et les êtres qui en avaient réchappé. Solidarité obligée au fond de la cuvette. Le pourquoi du comment à ce moment-là, exactement, on n'en savait rien. Mais ce qu'on pouvait dire, c'était qu'à cette époque post-humaniste, la pauvre Terre, complètement dépecée, tremblait et s'effondrait ici et là. Le ciel éventré pleurait des larmes sombres. Les mers et les océans mouraient doucement d'asphyxie. Ça commençait vraiment à sentir le roussi. De nombreux plans et sommets internationaux avaient été annoncés. Grosso modo, partout les mêmes discours politiques, les mêmes pratiques hypocrites, entraînant les mêmes rages de vaincre l'impossible. Et comme certains engagés avaient prédit, toute forme de mépris, si elle intervient en politique, prépare ou instaure le fascisme. au mépriser du monde, ne restait que la rage, la résilience et la mémoire. Tout ça, finalement, s'était téléphoné depuis des années, quand le grand bing-bang-boom bousilla presque tout, ou sauva ce qu'il put, question de point de vue. Quand le juste retour des choses s'accomplit, il libéra enfin la terre des bourreaux ancestraux et de leurs associés. Il brisa net les structures et les systèmes établis, des jours et des nuits, dans la fureur et les cris. L'effondrement du monde globalisé, tel qu'il avait tourné pendant des millions d'années, injustement et violemment, se produisit à la finale en quelques heures. Et voilà comment débuta le troisième millénaire.
Tout est lié.
Chaque matin pour son lever, sa chédra lui prépare une mixture d'enfer, impossible à esquiver, thé noir et lait de soja ou de riz. Un espèce de jus de chaussette servi dans un grand bol d'argile rouge. Maddy ne bronche jamais. Elle boit le brevet en entier. La journée était bien avancée. Elle aurait déjà dû être en forêt. L'ancienne, debout face à la jeune, le lui fit remarquer, puis la fixa avant de lui lancer.
« Alors, ma crapuleuse, t'es rentrée bien tard. Qu'est-ce que t'as fabriqué toute la nuit? T'as une drôle de tête. »
Non, y a rien. Je me suis frappée la gueule. La combinaison s'est déchirée en rentrant à l'atelier. Puis je me suis endormie. Et là, je suis pas drôle.
Reste polie, s'il te plaît.
La vieille s'était plantée face à la fille, les mains sur les hanches. Elle essayait de sonder sa petite. Maddy, silencieuse, restait assise sur le banc des accusés. Le nez dans son bol, elle attendait la suite.
J'ai toujours veillé sur toi, tu sais ça. Je sais ce que tu cherches. Je te connais comme si je t'avais faite.
Je sais, et je sais que tu sais toujours tout de toute manière.
C'est ça. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Et tu ferais bien de m'en parler. J'ai l'expérience des problèmes et l'instinct de bonnes solutions.
Je dois y aller.
La jeune arriva en retard en forêt. Dans cette nouvelle ère, la notion de retard n'existait plus. Le rapport au temps avait changé. Les cycles avaient remplacé les années, les périodes, les saisons. Les jours ne portaient plus les sept mêmes noms à répétition. La communauté avait banni les hiérarchies. Elle gérait et décidait collectivement des règles de vie. Les activités partagées faisaient partie des responsabilités collectives communautaires. Les RCC. Elles incombaient à chacune et chacun. Il en allait de la survie du seul groupe humain et de l'équilibre entre les espèces. Chaque membre, à sa manière et à son rythme, donnait de son temps pour les RCC. On travaillait les terres ou en forêt. Ce jour-là, en forêt, justement, la veste manqua à l'appel. On l'avait surnommé ainsi parce que, chose rare, il était né pâle comme une veste de loup. Un champignon ocre qui faisait de la fumée blanche quand on lui marchait dessus. Gamin, la veste raffolée de cette pratique défendue. Sans parler de sa langue toujours trop pendue. C'était un ténébreux lui aussi. Il creusait tard la nuit. On ne commença à s'inquiéter de l'absence du fiston qu'en soirée, lorsque sa mère vint alerter la communauté. C'était une première. Personne n'avait jamais disparu sans explication. Les recherches reprendraient dès les premières lueurs du jour.
Pour finir.
Maddy rentra après avoir rempli sa part de RCC. Elle semblait toujours aussi peu causante, répondant par des grognements. Chiron avait préparé une soupe de racines en l'attendant. Elle était bien décidée à lui sortir les vers du nez. Ce silence infernal, ça pouvait plus durer. Elle servit le repas, la jeune s'assit. De sombres cernes marquaient le visage de Maddy.
C'est de la purée, ça ?
Lança la jeune.
De la soupe épaisse. Bon, je t'écoute. Ça suffit tes silences et tes insomnies. Et depuis quand tu fermes à clé l'atelier ?
Maddy se leva, ferma la porte puis tira le rideau d'un coup, recouvrant la fenêtre entièrement. La pièce s'assombrit. Nerveuse, elle commença à tout déballer.
J'ai trouvé quelque chose, je sais pas c'est quoi, mais c'est vivant. Je l'ai ramené à l'atelier l'autre nuit. Je sais, j'avais pas le droit. Et je crois que j'ai fait une autre connerie.
Tu crois ?
Ben...
Avec ses doigts biscornus, l'ancienne attrapa la jeune par le menton, plongeant ses yeux vifs dans ceux de Maddy. Maddy recula pour se dégager de la prise.
Ouais, mais bon, c'est pas que de ma faute. Puis j'ai eu peur, il a commencé par me suivre. Je l'avais pas vu au début.
À la fin du récit, la vieille soupira fortement. Quelle que fût la situation, elle était prête à assumer les conséquences des actes de celle qu'elle considérait comme la chair de sa chair. Elle se rendit à l'atelier. Ils restèrent une bonne partie de la soirée, enfermés à double tour. Quand elles sortirent du cabanon, la jeune portait un sac rempli, la vieille aussi. Elles prirent la direction de la carrière des ténébreux, visage fermé, déterminé. Une fois sur place, Maddy s'assura qu'il n'y avait personne aux alentours, avant de ramener l'ancienne aux abords du puits tari et abandonner.
Regarde, moi j'ose pas.
Sharon s'approcha, se pencha, éclaira le fond avec sa torche en feu. Elle ne put que constater que les dires de la jeune étaient véridiques. Le garçon gisait au fond, cadavérique. Le secret partagé devait être scellé. Maintenant, il fallait plus traîner.
Prépare le mortier. C'est marre, il n'y a plus le choix.
Grommela l'ancienne. Quand la pâte fut pâteuse et épaisse, la vieille demanda à la jeune d'aller se poster en contrebas. Elle termina le sale travail. Au bout d'un moment, elle rejoignit Maddy postée derrière le buisson.
C'est fait. Je rentre. Je suis crevée. Rejoins-moi avant que le jour ne se lève. Il nous reste encore un problème à régler.
Mais t'as dit qu'on pouvait le garder.
Tais-toi. Faut que je réfléchisse. J'ai un livre. Faut trouver une solution qui nous satisfasse tous. Toi, moi, la communauté et ta chose.
Sharon sortit de la fosse comme d'un mauvais rêve, barbouillée, le corps tout mouillé. Elle cogitait à l'endroit où pouvait bien se trouver son vieil almanach illustré. L'ancien document témoignait de la réelle existence des oiseaux avant que n'ait eu lieu la fin de l'autre monde. L'aube se levait à peine lorsque la jeune poussa la porte. La vieille s'était endormie sur la table, la tête dans son vieux bouquin poussiéreux. Sharon sursauta et se frotta les yeux. En voyant la fille, elle esquissa un sourire malicieux. D'un signe de tête, elle lui indiqua le chaudron à mettre sur le feu. Maddy s'affaira, posa les deux bols sur la table, le rouge et le vert.
J'ai trouvé. Je vais te le lire. Alors, il s'agit d'un engoulevent. C'est un petit oiseau sauvage. Il a de grands yeux, de petites pattes fragiles, des ailes pointues. Son plumage est discret et tacheté. D'à peu près 20 cm de long, le seul oiseau capable d'hiberner. Tu vois, ça s'explique. Il passe la majeure partie de sa journée posé le long d'une branche ou caché dans des cavités naturelles. Alors écoute ça, c'est incroyable. Il s'active seulement au crépuscule et pendant la nuit, tu te rends compte ? Comme toi l'animal, c'est pour ça, je savais, tout s'explique. Il fait son nid au sol et sa ponte est toujours de 2 œufs.
Sharon semblait surexcitée. La jeune écoutait bouche bée l'ancienne s'émerveiller. Elle songeait à ses 2 dernières nuits. Elle s'interrogeait intérieurement. Est-ce qu'elle aurait pu faire autrement ? Cette nuit-là, la veste l'avait suivie, avait surgi de derrière les roches, s'arrogeant la paternité de sa découverte. Elle n'avait pas accepté ses propos, son comportement devenant une menace. Il s'était approché, trop près, avec sa main levée, alors elle avait eu peur, très peur, et de tout son élan, elle l'avait repoussé fort, très fort, si fort qu'elle suffoqua en trébuchant en avant. Lui, il cria fort, aussi, en tombant en arrière, au fond du puits. Depuis, la nuit, elle entendait son cri. Maddy pensa aux champignons écrasés et au prix à payer. Elle observait sa chédra et son sourire revenu. Maddy avait enfin un bon pressentiment. Bientôt, renaîtraient les piaillements.
Ben voilà, bonne friture, c'est fini pour aujourd'hui. Mais on se retrouve dans 2 mois.